France Inter.
Citoyens et citoyennes,
camarades,
compagnons,
travailleuses, travailleurs,
françaises, français,
et tous les autres, bienvenue dans Enquête de politique. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h.
Enquête de politique. Thomas Legrand sur France Inter.
La banlieue et ses représentations, la banlieue et ses ismes pour ce dernier épisode d'Enquête de politique au bout de 3 ans et 120 épisodes. Je vous propose de nous pencher sur les concepts, il faut le dire, souvent dépréciatifs, les concepts qui accompagnent le débat sur les banlieues, le communautarisme, le séparatisme, l'islamisme, le terrorisme. Mais il y a aussi d'autres mots, et pas forcément en isme, plus positifs comme la solidarité, la mixité. Nous allons nous demander ce que ces mots utilisés dans le débat public, politique et médiatique, dès qu'il s'agit de la banlieue et des cités, dites à problème, recouvrent comme réalité ou comme fantasme. Avec ce soir, Fabien Truong, sociologue à Paris 8, écrivain aussi, Jérôme Truc, sociologue, chercheur au CNRS, et tous les deux sont auteurs de « Grands ensembles, violence, solidarité et ressentiment dans les quartiers populaires », et c'est édité à La Découverte. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Bonsoir.
Évidemment qu'il ne faut pas seulement l'école, mais il faut une cité éducative autour de l'école. C'est-à-dire tous les moyens. Vous savez, un proverbe africain dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Donc ça va être une magnifique cité éducative avec énormément de moyens humains et d'accompagnement, sport, culture, etc. C'est un ensemble de programmes, oui, des programmes lourds qui, j'espère, vont changer la donne. Ces quartiers ont évidemment un avenir numérique majeur. Donc des campus numériques dans les quartiers phares. Il faut qu'on réattribue nos richesses, nos moyens humains.
Et quelque part, ça n'aurait aucun sens que deux mâles blancs ne vivant pas dans ces quartiers s'échangent l'un un rapport et l'autre disant « on m'a remis un plan, je l'ai découvert ». C'est pas vrai, ça marche plus comme ça.
Pour introduire ce débat sur les mots de la banlieue, ces deux petits extraits qui datent de 2018, un de mars 2018, et c'est donc Jean-Louis Borloo qui parle du plan banlieue qu'on lui avait commandé, avec, en parlant évidemment de l'énergie de la banlieue et de tout ce qu'on allait y mettre pour récupérer cette énergie et puis pour la faire grandir. Et puis, quelques mois après, en avril ou en mai 2018, Emmanuel Macron qui enterre le plan banlieue. On en reparlera. Fabien Truong et Jérôme Truc, vous avez écrit un livre qui s'appelle « Grands ensembles ». Il y a un S à grand et il n'y a pas d'S à ensemble, donc « grands ensembles, soyons grands ensemble », j'imagine. Pourquoi ce titre, Fabien Truong ?
Plusieurs raisons. Alors, évidemment, on joue sur les grands ensembles et grands ensembles, le fait de grandir. Alors, une première raison, c'est que c'est une enquête qui a duré 10 ans. Et donc, en 10 ans, c'est une enquête ethnographique. Ça veut
dire... On va y revenir 2015-2025.
Voilà, 2015-2025. Et donc, sur cette focale de 10 ans, ça permet... simplement, en fait, de voir les gens évoluer, se transformer et grandir ensemble. Alors, c'est important de préciser cette focale-là, parce que justement, sur la banlieue, on a souvent des images un peu fixistes, des photographies, et ce sont des quartiers qui sont majoritairement traités sous l'angle du fait divers, et il n'y a pas plus, entre guillemets, photographique et instantanéique que le fait divers. Et prendre ce temps-là, c'est regarder des avant, des après, des transformations, et aussi un agrandissement. Et dans l'extrait qu'on vient d'entendre, il est au début sur le plan Borloo, c'est la question des cités éducatives. Les cités éducatives, c'était un peu ça l'idée. C'était l'idée de l'enveloppement collectif pour justement faire en sorte que des enfants qui ont moins de ressources, de capitaux puissent grandir en étant enveloppés. Il y a cette dimension-là aussi quand on reste longtemps dans un quartier. C'est le fait qu'on s'agrandit aussi au contact des autres.
Et dans ce qu'on vient d'entendre, Jérôme Truc, il y a Emmanuel Macron qui dit deux mâles blancs peuvent pas comme ça présenter un plan. Et aujourd'hui, moi je fais une émission et on est trois mâles blancs. Et ça montre la difficulté de la chose, parce que j'avais invité Mimouna Hadjam, qui est une activiste, une féministe très intéressante et qui est à la Courneuve. Et là, elle m'a dit qu'elle pouvait pas venir quelques minutes avant l'émission parce qu'il y avait une urgence, une expulsion locative. Voilà, la banlieue, c'est ça aussi.
Oui, tout à fait. Notre livre se compose de trois parties. Et la partie centrale, partie principale, s'appelle « Un état d'urgence permanent », qui répond à la première partie qui porte sur les attentats, parce qu'on arrive en fait en 2015 à Grigny. Et donc oui, le fait qu'aujourd'hui on se retrouve à trois mâles blancs dans cette salle est symptomatique de ce qu'on analyse dans ce livre-là, à savoir que quand on vit dans ces quartiers-là, du fait d'un reflux qui date d'il y a plusieurs années, du service public, on montre comment à Grigny, par exemple, il y a un commissariat, mais qui est quasiment jamais ouvert, il l'est que 3 heures par semaine, du fait des problèmes qui ne cessent structurellement d'être alimentés, on est très régulièrement amené à faire face à des difficultés, des crises, des situations de crise, et que face à ces situations donc d'urgence qui reviennent de manière permanente, très souvent ce sont les femmes qui sont en première ligne, dans les associations, en tant que maman aussi. Alors c'est pour ça qu'il y a un complet décalage entre les discours qui peuvent être portés par les médias et par les politiques sur ces quartiers et leur réalité. Puisque là, effectivement, on entendait des paroles d'Emmanuel Macron, on pourrait se dire oui, elles sont assez justes, mais qui n'ont pas été suivies de fait. C'est-à-dire que ce rapport Borloo, effectivement, et qui naît d'ailleurs, je le signale là au départ, d'un appel de Grigny, d'un appel lancé à Grigny dans le contexte post-2015, on en parle aussi dans le livre. Les cités éducatives, la première cité éducative, elle a été implantée à Grigny. Grigny a fait figure de test. Et puis, indépendamment du fait que le constat posé par notre président dans ses paroles là qu'on a entendu est tout à fait juste, le plan Borloo, il a été mis aux oubliettes. Et ça a été une vraie cassure très douloureuse pour les élus de ces quartiers-là, pour les habitants de ces quartiers-là. Et de la même manière que quand aujourd'hui on entend ce même président et d'autres élus, représentants politiques stigmatisés après les émeutes, par exemple, à la suite de l'assassinat de Naël, la démission des parents et des mères en particulier, rien n'est moins faux, en fait, parce que, comme on le montre dans notre livre, on a un chapitre entier qui est consacré à ça. Si ces quartiers n'exposent pas davantage, alors même qu'ils sont confrontés à un roulement permanent, structurel, de difficultés qui s'accumulent et de violences, c'est précisément parce que les femmes et les mères, donc en particulier, jouent un rôle essentiel.
Voilà, et je voulais, parce que j'avais invité Mimouna Hadjam pour qu'elle nous parle de son association qui s'appelle Africa 93 et elle a des problèmes d'ailleurs de financement. Je voulais qu'elle nous en parle, donc Africa 93 de Mimouna Hadjam, c'est important, c'est une association de la Courneuve et elle n'a pas pu venir à cause d'une urgence. Elle a dû s'occuper de femmes qui allaient être expulsées. Fabien Truong.
Oui, alors pour rebondir aussi sur ce que disait Jérôme et sur la question des mâles blancs, alors c'est intéressant parce que les choses aussi sont toutes aussi situées. Par exemple, dans le livre, j'explique par exemple que je suis perçu comme blanc, mais si vous entendez mon patronyme, il y a d'autres contextes où je suis pas forcément perçu comme un mâle blanc. Et tout ça pour dire aussi que les choses sont contextualisées et que ça rejoint aussi la première question. Si on a pris 10 ans aussi, c'est-à-dire que nous, on n'habite pas à Grigny, mais on a pris le temps, en fait, de faire beaucoup d'allers-retours.
Alors, revenons sur ces 10 ans. Pourquoi vous arrivez à Grigny en 2015? Dans quel contexte? Et pourquoi vous décidez d'y rester?
Oui, alors au départ, c'est assez fortuit, entre guillemets, c'est-à-dire que on est contacté, justement, ça montre encore la vitalité de la vie associative, par un collectif d'habitants qui s'est formé après les attentats de janvier 2015. Alors peut-être pour rappel, dans les attentats de janvier 2015, l'un des terroristes, Hamedi Coulibaly, était originaire de la ville de Grigny. Et donc, pour les habitants et les habitantes, il y a un choc très très fort. Alors le choc, il est national, évidemment, mais parce qu'il ou elle ont pu connaître et croiser Hamedi Coulibaly. Et donc, il y avait un besoin très très fort de parler de ce qu'on ressentait à ce moment-là, et les habitants et les habitantes ont dressé des murs de parole où chacun et chacune pouvait écrire, dessiner beaucoup. Alors, c'est important le dessin, parce que beaucoup de ces personnes ont rapport à l'écrit en français, pas forcément évident, mais l'idée, c'était de s'exprimer. Et il y avait à peu près 300 messages qui ont été écrits, et à l'approche de janvier 2016, les habitants voulaient un petit peu commémorer ce moment-là. C'est dans ce contexte qu'on arrive, et je vais laisser Jérôme continuer l'arrivée.
Voilà, vous faites l'animation, c'est bien, Jérôme.
Oui, non, effectivement, on arrive dans ce contexte-là, et c'est symptomatique, le simple fait qu'il y ait ce collectif et qui fait appel à nous pour nous aider à faire sens de ces messages qu'ils ont récupérés sur ce qu'ils appellent les murs de parole, donc, est symptomatique de cet écart, une fois encore, qu'il peut y avoir entre le discours, le regard qu'on porte sur ces quartiers et leur réalité. Parce que qu'est-ce qui se passe en ce moment-là, et c'est aussi pour ça qu'ils font appel à nous, c'est qu'il faut se resituer 10 ans en arrière. Après ces événements de janvier 2015, donc l'attentat de Charlie Hebdo, qui effectivement suit un émoi national, suivi l'assassinat de Clarissa Jean-Philippe à Montrouge, dont d'ailleurs la tante habitait à l'époque à Grigny, on le raconte dans le livre, et puis ensuite la prise d'otage de l'hyper-cachère, et au printemps, on a tous débat sur qui était ou qui n'était pas Charlie, alimenté par le livre d'Emmanuel Todd à l'époque. Et il y a cette petite musique lancinante dans le débat public qui est les quartiers populaires étaient moins endeuillés, étaient moins concernés.
Ils ne sont pas descendus.
C'est ça. L'émoi était national, mais eux, quand même, on les a moins vus, etc. Mmh. Et en fait, là, justement, un collectif s'est formé, il ne s'en est pas formé partout, en réaction à l'événement, ce qui dit bien quand même le choc que ça a été pour eux, un choc redoublé, comme l'expliquait Fabien, parce que. En fait, au bout du compte, ils sont effectivement concernés et touchés comme tout à chacun, comme la plupart des autres Français. Ils le sont encore plus en apprenant que un de ceux qui a commis ça a grandi chez eux, que certains l'ont connu étant enfant. Et puis, il y a même un troisième facteur qui est que justement, ils se prennent ce discours très stigmatisant, ils se sentent mis à l'index, que ça vient réactiver aussi des choses douloureuses qui sont que depuis les années 90, en gros, où commence à émerger ce discours très négatif sur les banlieues, c'est pas la première fois qu'on met à l'index la Grande Borne, Grigny en particulier, et que ça a des implications très concrètes sur leur vie, c'est-à-dire que les jeunes qui grandissent là-bas, ils n'arrivent pas à avoir un stage quand ils sont en troisième, par exemple. Avoir Grigny sur son CV, c'est infamant. Et donc, voilà, là, on a tout de suite des gens qui nous disent « Mais on y était, nous. La mairie avait affrété des bus pour aller à la marche républicaine, la grande marche républicaine du 11 janvier. On y était. Il faut bien voir que Grigny, ville la plus pauvre de France, le taux d'équipement automobile est très faible aussi, Paris, c'est loin.
C'est traversé par l'autoroute, pourtant.
Par l'autoroute, exactement, la 6, de part en part. Mais donc, voilà, les gens, tout de suite, nous disent « Mais on y était », et ils ont besoin d'être entendus, parce que et donc le livre parle beaucoup de ça, parce qu'après, du coup, on le remet en perspective sur le temps long. 2015 exacerbe ce sentiment d'un écart complet entre ce qu'on vit quand on vit dans ces quartiers et ce qu'on en dit en permanence dans les médias en France.
Alors, il y a un mot, parce que cette émission s'attache aux mots et aux ismes, c'est le mot communautarisme. On a beaucoup parlé de communautarisme, de repli identitaire. Et Fabien Truong, on va parler de communautarisme, de ce que ça peut représenter. Mais d'abord, est-ce que ce sont des populations qui sont renfermées sur elles-mêmes et qui se replient ? Dans votre livre, vous expliquez justement que le repli, l'idée du repli est à bannir.
Oui, bah si on prend le mot séparatisme par exemple, ça peut être ça.
Mais alors en fait, on va venir à séparatisme après.
D'accord. En tout cas, ce sont pas du tout des quartiers qui sont déconnectés, repliés et renfermés sur eux-mêmes, au sens où si on regarde les flux en fait de population, les flux démographiques, les flux quotidiens, en fait, ce sont les quartiers populaires sont les quartiers les plus connectés en fait au reste de l'espace social, parce que ce sont des quartiers qui sont au service en fait des autres endroits de l'espace social. Par exemple, vous prenez le RER. Très tôt le matin à Grigny, à 5h ou à 6h du matin, il va être plein. Pourquoi il va être plein ? Ben vous allez voir des hommes et des femmes qui se lèvent très très tôt et qui vont dans le centre de Paris ou dans les centres urbains pour rendre service. Ce qui était intéressant, par exemple, c'était la période du Covid. La période du Covid, on a beaucoup célébré les travailleurs et les travailleuses essentielles, les personnes qui prenaient soin, en fait, des personnes dans les EHPAD, dans les hôpitaux, mais aussi des bâtiments, des poubelles, les personnes qui travaillaient dans la logistique. En fait, toute la personne qui organise les flux de marchandises et bien du capitalisme contemporain, toutes ces personnes-là qui sont payées en fait à un très bas salaire, elles habitent dans les quartiers populaires et elles sont regroupées dans les quartiers populaires, mais elles sont en fait, je dirais, structurellement, fonctionnellement et très très concrètement connectées, en fait, hyper connectées au centre. Et je ne parle pas non plus aussi des nounous, etc. Et donc, il y a vraiment une relation de service en fait entre ces personnes et le reste du pays, qui est vraiment extrêmement fort. Et puis, autre point, et ça c'est encore la temporalité qui permet de prendre ça, nous ce qu'on constate, et c'est le cas dans tous les quartiers populaires, c'est qu'au bout de 10 ans, la population de Grigny, elle s'est quasiment transformée à plus de la moitié. Il y a plus de 50% oui. de personnes qui ont quitté Grigny.
Il y a une rotation importante, et quand on parle des quartiers plus riches, des quartiers aisés de la capitale, Jérôme Truc, les gens qui y habitent finalement travaillent pas loin de là où ils habitent, ils ont hérité de leur appartement et ils le transmettront à leurs enfants. Il y a peut-être que le repli pourrait s'appliquer à d'autres quartiers.
Non, mais exactement, ils en sont propriétaires, alors qu'à Grigny, vous avez des grands ensembles avec essentiellement des gens qui sont locataires. Et si les mots ont un sens, et qu'on parle donc de ghetto, un ghetto, sociologiquement, c'est quelque chose qui est refermé sur soi-même, où les gens ne peuvent pas sortir, peuvent difficilement rentrer, qui est assez fixe, en fait. Et donc, de ce point de vue-là, un quartier comme celui dans lequel on est là, autour de la maison de la radio, le 16e arrondissement, on ressemble beaucoup plus à un ghetto de riches qu'une ville comme Grigny.
Si on considère que la mixité, comme on le considère généralement, est une valeur positive, on peut dire que c'est plutôt le 16e, qui est le 16e arrondissement de Paris, pour ceux qui ne sont pas parisiens, c'est un quartier assez riche, c'est plutôt le 16e qui est un quartier à problème pour la République.
Mais de ce point de vue-là, oui, si vous voulez, c'est-à-dire que tout simplement, tout à l'heure, Fabien parlait de photographie à Grigny. Effectivement, selon l'heure, le moment de la journée auquel vous allez, la photographie ne sera pas la même. Parce que les grands ensembles, par définition, là aussi, au départ, ce sont des quartiers où on sont amenés à se côtoyer des gens qui ont des histoires différentes, qui arrivent de pays différents, qui... et on le retrouve encore aujourd'hui à Grigny. Si vous y allez le matin, vous allez encore voir des blancs, des retraités, des personnes âgées qui sont installées là dans les années 60-70, qui faisaient acquisition d'une propriété, qui pouvaient être originaires, on le raconte dans le livre. On a des gens qui sont issus de familles rescapées de la Shoah, qui sont des descendants de juifs polonais. On a des Portugais originaires du Portugal, arrivés là, notamment certains pour construire la Grande Borne. Il y a des Italiens, les premiers arrivé à Grigny, c'est pour l'extraction de la pierre Molière, tournant fin 19e, début 20e, et donc il y a des Italiens qui sont encore restés par là, et il y a ensuite des vagues d'immigration. C'est l'histoire de France, en fait.
Mais alors, quand on parle de communautarisme et de repli communautaire, on veut dire surtout que les gens qui arrivent là peut-être fréquentent ceux de leur communauté ethnique ou religieuse, et il y a peut-être une radicalisation, un enfermement. On sait que dans la République, on aime bien qu'il y ait une seule communauté, la communauté nationale, et les individus qui peuvent s'émanciper, et que peut-être que les banlieues et les cités sont des endroits où cette émancipation est plus difficile.
C'est là encore où il y a une cécité complètement sur la manière dont on perçoit la société. Ce que vous décrivez là, en fait, renvoie à simplement ce qu'est la vie sociale, en fait. Et je pense que chacun le sait quand on est un peu de bonne foi. Effectivement, d'un point de vue de la vie civile, en France, on a cette conception des citoyens d'une République une et indivisible. On ne doit pas avoir de tête qui dépasse et de différences particulières. Mais la vie sociale, elle se fait par affinité, qui se ressemble, s'assemble. Et donc, c'est exacerbé dans une ville comme Grigny, où effectivement, quand on arrive d'un pays étranger, qu'on a fui une guerre ou un régime autoritaire, et qu'on est sans ressources, on arrive là où il y a de la famille pour nous aider, des amis pour nous aider. Donc effectivement, on commence par se regrouper. Mais le but, c'est de pas de passer sa vie là comme ça, regroupé là. Ça n'a qu'un temps. Et c'est pour ça que la population dans une ville comme Grigny, elle se renouvelle de plus de moitié en 10 ans. Parce que les gens qui sont là, ils arrivent au début auprès de leurs oncles, de leurs cousins, etc. Mais dès qu'ils peuvent, ils vont ailleurs. Parce qu'ils voient bien aussi pour eux comme c'est difficile quand on reste à Grigny d'arriver à s'en sortir. Donc dès qu'ils le peuvent, ils vont ailleurs. Mais la vie sociale fonctionne comme ça. Partout, en fait. Les gens qui s'installent en Bretagne depuis le Covid s'installent là aussi, où ils ont des attaches familiales, des amis, des proches. C'est comme ça partout.
France Inter, enquête de politique. Thomas Legrand.
Nous sommes avec Jérôme Truc et Fabien Truong et nous parlons de la banlieue. Quand on parle de communautarisme, on parle évidemment d'islamisme, de repli identitaire et religieux. Fabien Truong, ça c'est une réalité ?
Ça dépend.
Il y a eu le fameux rapport récemment sur l'influence des frères musulmans et l'entrisme. On ne va pas revenir là-dessus, mais cette réalité existe.
Ça dépend de quoi on parle. Si c'est l'idée de dire que les personnes qui composent les quartiers populaires se tournent beaucoup vers la religion pour y trouver un certain nombre de réponses, ça c'est une réalité. Et d'ailleurs, il n'y a pas que la religion musulmane, il y a un focus sur la religion musulmane, mais il y a aussi l'évangélisme qui est très très puissant. Puis il y a l'histoire du catholicisme social et du catholicisme de gauche qui a été aussi très très puissant dans le quartier des années 70. Donc, en gros, les habitants des quartiers populaires ont tout un tas de problématiques et, c'est vrai, vont trouver dans la religion un certain nombre de réponses assez concrètes sur des questions qui se posent et qui sont liées, en fait, finalement, à leurs conditions de vie.
Et souvent conservatrices, les réponses ?
Parfois, pas toujours, mais parfois. Mais donc ça, c'est une réalité. Après, l'idée qu'il y aurait une pratique unique, homogène, de la religion, en l'occurrence...
Pardon, une emprise.
Alors, il y a l'emprise et l'homogénéité. C'est peut-être deux choses un peu différentes. Je reviens sur l'homogénéité. L'idée qu'il y aurait un islam, l'islam avec un grand L et un grand I, et que ce serait le même pour tous et toutes.
Alors, une grande barbe.
Une grande barbe, oui. Alors ça, c'est absolument faux. C'est-à-dire qu'il suffit de... Alors, c'est faux parce que, en fait, qu'est-ce que c'est qu'une religion ? C'est l'exégèse de texte. Et on va y trouver des réponses par rapport à des problèmes concrets. Typiquement, dans les familles musulmanes, très souvent, la religion entre les enfants, les parents, c'est l'objet, en fait, de disputes. Alors, déjà souvent, assez amicales, mais parce que les parents, les enfants n'ont pas les mêmes besoins, ne lisent pas les mêmes textes. Et il y a des pratiques, en fait, très différentes. Donc, il n'y a pas la religion. Et sur l'islam, il y a vraiment des pratiques assez différentes. Après, ce qui est une réalité, c'est que pour certains garçons, notamment, qui ont des difficultés à trouver, pour le dire vite, un certain nombre de repères fixes, de cadres, et qui sont dans des trajectoires biographiques avec du flou et des incertitudes, ça, c'est assez clair que l'islam, une certaine pratique de l'islam, offre, en fait, une certaine forme de structure temporelle qui est recherchée. Ça, on peut l'expliquer. très calmement. Parfois, dans certains cas, et pour des jeunes qui sont chargés de violence, cette violence, elle va se reporter, ou le besoin de contrôle, ou de contrôler les femmes, peut se reporter sur la religion. Ça existe tout à fait, mais un, c'est pas la norme, et deux, pour l'expliquer, il faut en fait s'intéresser aux trajectoires en fait, des individus, et à comment ils arrivent dans la religion. Mais la pratique de l'islam, elle est vraiment très, très éclatée.
Très hétéroclite.
Et parce qu'aussi, l'islam tel qu'on le pratique en étant soninké, bambara, en venant de Kabylie, on n'a pas le même rapport en fait, au religieux, au sacré, et même aux pratiques. Donc c'est assez différent, en fait.
C'est assez différent, mais pour lutter contre l'islamisme en 2021, le gouvernement avait décidé de faire voter une loi dite séparatisme, et le mot séparatisme était justement choisi par Emmanuel Macron, pour ne pas dire communautarisme, pour pouvoir séparer l'islam de l'islamisme, pour pouvoir distinguer l'islam de l'islamisme. C'était à l'origine quelque chose de plutôt vertueux comme volonté, mais vous allez voir que cette préoccupation sémantique s'est un peu embourbée. Écoutez par exemple le ministre de la Justice interrogé en 2021 par Léa Salamé sur ce thème.
Il y a l'esprit de la loi, mais il y a aussi les mots. Emmanuel Macron avait dit dans son discours des Mureaux le 2 octobre dernier « Ce à quoi nous devons nous attaquer, c'est le séparatisme islamiste, c'est le cœur du sujet. Abordons-le et nommons-le. » Finalement, Éric Dupond-Moretti, on ne trouve dans cette loi ni le mot séparatisme, ni le mot islamiste. Pourquoi ne pas les avoir inscrits dans le texte ?
D'abord, si j'ose dire, parce qu'il est dans tous les interstices du texte. Il est dans toutes les virgules du texte. L'idée, c'est sans doute de ne pas être trop restrictif, même si ce texte vise essentiellement, bien sûr, l'islamisme radical.
Mais pourquoi ne pas l'avoir écrit ? Écrire le mot islamisme, est-ce que parce que vous craignez que cette loi soit perçue comme une loi anti-islam, vous aviez peur des critiques comme ça ?
Pas du tout, c'est une caricature, pardonnez-moi. En quoi cette loi serait une loi anti-islam ?
Alors, ce n'est pas du tout moi qui l'ai dit, mais je voudrais savoir pourquoi, quand Emmanuel Macron dit « nommons les choses », dit « le cœur de cette loi, le cœur du problème, c'est l'islamisme radical, c'est l'islamisme politique », pourquoi il n'y a pas écrit le mot, c'est tout ?
Nous sommes sur un travail qui est un travail légistique, et ça n'est plus tout à fait la même chose.
Jérôme Truc, en 2021, quand il y a eu ce débat, islamisme, communautarisme, séparatisme, vous étiez en train d'écrire votre livre, en tout cas c'est dans cette période 2015-2025 pour laquelle vous travailliez à ce livre. Comment vous avez vécu et comment la population que vous côtoyez à ce moment-là a vécu ce débat ?
Je vais vous dire, on traverse en France actuellement, et ça fait un moment, une profonde crise démocratique et qui est aussi une profonde crise de l'action publique. Ce que cristallise ce qu'on vient d'entendre et ces débats autour du séparatisme, c'est cette profonde difficulté qu'ont désormais les acteurs politiques à comprendre la société, à se connecter, à avoir prise sur elle. C'est-à-dire qu'avant même de savoir quelle loi il faut voter, quel terme il faut employer, il faut arriver à définir les problèmes sociaux. Or, il s'avère que faire ce diagnostic, si vous voulez, dans des sociétés comme la nôtre, qui sont de plus en plus complexes, c'est pas évident. Et on a inventé une discipline scientifique pour ça, à la fin du 19e siècle, début 20e siècle, la science sociale, ça demande de la méthode. Si on a passé 10 ans à Grigny, c'est parce que c'était pas si simple que ça, que d'arriver à démêler les problèmes dans ce qui est la ville la plus pauvre de France, d'où était originaire l'un des terroristes de 2015. Ça prenait du temps, il a fallu qu'on y soit à deux et qu'on emploie de la méthode. Et le problème donc actuellement, c'est que si vous voulez, on a un rapport, par exemple, sur le séparatisme, il n'est pas fondé sur de la méthode en sciences sociales. Les chercheurs spécialistes de ces questions de l'OCNRS vous disent « Oui, il ne s'agit pas de nier les faits. Il y a des frères musulmans, mais ils sont en fait en déclin. C'est plus vraiment là que se situe la menace aujourd'hui, si tant est qu'il y en ait une. » Il y a toujours un décalage, si vous voulez, entre les rapports qui sont produits et ce sur quoi se fondent les acteurs politiques pour agir.
En fait, il y a un décalage sociale. Entre la réalité que les chercheurs voient, que les chercheurs trouvent, le débat médiatique qui maintenant est fait de réseaux sociaux et de chaînes tout info, et la traduction politique. Là, on voit bien qu'entre le discours des Mureaux évoqué par Léa Salamé, où Emmanuel Macron parle d'islamisme et de communautarisme, et le fait de fabriquer une loi, il y a une incompatibilité, et il y a donc un flou qui s'organise.
Et le problème, c'est qu'en plus, si vous voulez, en fonctionnant ce décalage-là, comme on agit quand même sur la base de ce décalage, finit par créer des problèmes et à aggraver les choses. Le problème, c'est qu'au lieu de se baser sur des une connaissance qui peut être établie par méthode, on tend aujourd'hui à structurer le débat public autour de, en gros, des fantasmes et des paniques, ce qu'on appelle en sciences sociales des paniques morales. C'est-à-dire qu'on part de choses qui existent, mais qui sont minoritaires, qui sont anecdotiques, et elles sont montées en épingle à cheveux par des éditorialistes, par des médias, par les réseaux sociaux, et on pense que
c'est... Par les médias bolorés, très largement.
Et on pense que, du coup, c'est vraiment là-dessus qu'il faut agir et que c'est catastrophique. Le problème, si vous voulez, là aussi, c'est des choses bien établies par les sciences sociales, c'est même un théorème, ce qu'on appelle le théorème de Thomas en sciences sociales, c'est que quand les gens définissent une situation comme réelle, alors même qu'elle ne l'est pas, elle finit par avoir des conséquences réelles. C'est-à-dire que les gens agissent par rapport à ça. Par rapport à la condition de nos concitoyens musulmans en France. Très concrètement aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2015, on a aussi un collègue au CNRS, Vincent Gesser, et avec toute une équipe qui ont montré, qui ont enquêté sur comment les musulmans de France avaient spécifiquement vécu les événements de 2015. Et ce qu'ils montrent, c'est qu'ils l'ont d'abord vécu comme tout un chacun, comme tous les autres Français. On ne peut pas mieux montrer qu'il n'y a pas de communautarisme musulman face à des attentats islamistes. Ils le vivent comme les autres. Ils sont parfaitement intégrés à la société, à la communauté de deuil de ce point de vue-là. Sauf que, il y a eu tout un discours, à partir de 2015, sur le problème musulman en France, dont ces événements auraient été révélateurs, etc. Ça aboutit à quoi? Donc derrière ce discours sur le communautarisme, le séparatisme, etc., ça aboutit à ce qu'aujourd'hui, on puisse avoir effectivement des gens qui passent à l'acte, qui vont dans des mosquées pour tuer un musulman. Alors, et du coup, en réaction, ce qu'explique Vincent Gesser, c'est que ben, on a les enquêtés, parce que lui aussi suit sur longtemps ce qu'on appelle, alors on entend s'approprier nos enquêtés, mais donc voilà, les personnes auprès desquelles il a enquêté en 2015, il a encore des échanges avec eux, et aujourd'hui il dit... Les musulmans de France finissent par s'identifier en tant que musulmans parce qu'ils se rendent compte que le fait d'être musulman dans notre pays, ça peut aboutir au fait qu'on se fait tuer. Voilà, quand on va à la mosquée, désormais, on craint pour sa vie, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Voilà. Et donc, on parle de quelque chose qui est faux, d'un fantasme, d'une panique morale, et ça finit malheureusement par avoir des effets réels.
Alors, je voudrais qu'on écoute maintenant successivement 3 présidents, donc 3 époques, et une évolution que nous allons commenter juste après.
Rien n'excuse cette violence, et elle doit être raisonnée, et s'il le faut, remise en ordre. Mais il faut comprendre que peut espérer un être jeune qui naît dans un quartier sans âme, qui vit dans un immeuble laid pour une vie grise, avec tout autour une société qui préfère détourner le regard et qui n'intervient que lorsqu'il faut précisément se fâcher, interdire.
Il faut renforcer la lutte contre l'immigration irrégulière. Mais l'adhésion à la loi et aux valeurs de la République passe nécessairement par la justice, la fraternité, la générosité. C'est ce qui fait que l'on appartient à une communauté nationale. C'est dans les mots et les regards, avec le cœur et dans les faits, que se marque le respect auquel chacun a droit. Et je veux dire aux enfants des quartiers difficiles, quelle que soit leur origine, qu'ils sont tous les filles et les fils de la République.
Le terme nettoyer au Karcher est un terme qui s'impose. Parce qu'il faut nettoyer cela.
Et alors,
on n'est pas des animaux.
Qu'est-ce qui se passe?
Alors, dans l'ordre, vous avez reconnu François Mitterrand après les émeutes de Vaux-en-Velin. C'était un discours d'octobre 1990. Jacques Chirac, bien sûr, après les émeutes de banlieue en novembre 2005. Et puis Nicolas Sarkozy et son fameux Karcher. Ça, c'était en juin 2005. Il n'était pas encore président de la République, il était ministre de l'Intérieur. Mais voilà, Fabien Truong, une évolution et un moment de bascule. Et peut-être un président de bascule, Nicolas Sarkozy. Rappelons que Nicolas Sarkozy, quand il est devenu président, est le premier à avoir lié l'immigration et l'identité, même de façon institutionnelle, en faisant un ministère de l'immigration et de l'identité. On ne voudrait pas dire que c'était mieux avant, mais quand même, Mitterrand et Chirac, c'était autre chose, non?
Oui, en fait, pour continuer ce que disait Jérôme, en fait, là, on sent une sorte de glissement. Et en réalité, de la part des hommes et des femmes politiques, alors, sans faire de grandes généralités, mais une grande paresse. Vraiment une grande paresse. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce genre de discours avec tous les amalgames qu'on peut avoir, finalement, vise à faire de la communication. En fait, on donne des images. Typiquement, qu'est-ce qui se passe sur la question de l'islam en ce moment? On ne parle que de signes ostensibles. On va parler du voile, de la barbe, de la longueur de la barbe, de la baya, bon, qui n'est même pas liée à l'islam. Donc on voit à quel point on a quelque chose de complètement fantasmatique. Et là, on colle des images. Mais une fois qu'on a ces images, on écrase complètement le réel. Et typiquement, est-ce qu'il y a de réels problèmes Il peut y avoir des garçons à barbe ou des femmes voilées qui ont des comportements problématiques. Mais ça, on peut le traiter. Mais ce n'est pas en traitant la barbe, ce n'est pas en traitant la voile, c'est en faisant de l'intermédiation.
Non, mais ça, la barbe, le voile sont les signes visibles des problèmes peut-être invisibles.
C'est un symptôme pour certaines personnes qui sont minoritaires par rapport aux personnes qui portent une barbe ou qui portent le voile. Et la réalité pour traiter ces problèmes-là, c'est qu'on a en fait les dispositions, les dispositifs, les solutions. On a quelque chose qui s'appelle la loi, la constitution. On a beaucoup de lois, en fait, sur le rapport à la violence. Il y a plein de choses qui sont interdites dans notre société, sur la protection des hommes, des femmes.
En fait, il faut appliquer la loi.
Oui, en fait, tout simplement.
Il faut d'en annoncer, mais aujourd'hui...
Il faut appliquer le droit commun. Mais pourquoi, dans les quartiers populaires, le droit commun n'est pas appliqué, parce qu'il y a très peu de services publics. En fait, les quartiers populaires sont sous-dotés en termes de droit commun. Et c'est vrai qu'en termes de jeunesse, il y a une jeunesse qui est plus en difficulté, mais qui est liée à la concentration économique et sociale des jeunes. Mais il n'y a pas les moyens pour faire le travail d'éducation et d'intermédiation. Et des jeunes garçons ou filles qui peuvent être en difficulté, pour sortir de leurs difficultés, il faut les identifier. La barbe ou le voile, ça peut être éventuellement un symptôme, mais ça ne sera jamais qu'un symptôme. Et le véritable traitement, il est dans le travail social, il est dans l'éducation, il est dans tout un tas de choses dont on sait d'ailleurs qu'elles marchent. Mais on ne s'en donne pas les moyens. Et quand on reste au niveau de l'image, eh bien, on reste à un point qui est paresseux et en réalité qui aggrave la situation, comme l'a dit Jérôme. Et là, on en est là. Et donc, quand on voit la dérive verbale des différents président, en fait, bah, c'est un peu ça qui arrive. Et là, bon, bah, on entend les mots qu'on entend aujourd'hui. On est dans ce glissement, mais qui est un glissement sur le court terme, en fait. C'est l'image, c'est du court terme, c'est de la communication, et c'est le refus de l'ambivalence. Et au fond, c'est l'intolérance à l'ambiguïté. Et la démarche des sciences sociales, la démarche de l'éducation, c'est une toute autre démarche. Et la question, elle est là, en réalité.
Et je rappelle que vous étiez dans le long terme pour faire votre livre qui s'appelle donc Grands Ensembles à la découverte. On se retrouve juste après Damso.
Tu sais, moi j'ai du mal à parler, j'ai tellement serré les dents. J'ai vécu des choses atroces, je connais la douleur des gens. Je cherche la paix un peu partout, guidé par le vent. Pour savoir comment aimer, j'ai demandé aux religions. Elles m'ont dit, tu connais rien dans la souffrance, celle que le temps ne guérit pas. Quand l'âme est blessée sur le chemin, ça laisse des traces depuis l'enfance. Et la mémoire n'a que le choix d'y repenser, repenser, repenser. Moi je comprends pas pourquoi je suis né, je suis dans le bleu. Pourquoi mon daron a-t-il craché dans le trou? Il fallait savoir déjà, est-ce que vous l'aimez, vous, cette vie énorme qui m'a demandé ma permission de lire au monde. Si je pouvais me prononcer, j'y passerais que quelques secondes. Mais qui m'a demandé ma permission de venir au monde? Si je pouvais me prononcer, j'y passerais que quelques secondes. La vie de rêve, la vie de Tony, Tony, Tony. Pour finir à monter la jolie, jolie, jolie. La vie de rêve, la vie de Tony Braxton. Les mauvais choix font que je déconne. Son bras petit feu, le désespoir résonne. Tant d'innocents, tant d'innocents payent pour que l'Occident règne sur les consciences saines, puis de confiance. Les conséquences saines de la méfiance saine, les cœurs mis en scène qui ignorent. Qui m'a demandé ma permission de venir en mort? Si je pouvais me prononcer, j'y passerais que quelques secondes. Mais qui m'a demandé ma permission de venir? Si je pouvais me prononcer, j'y passerais que quelques secondes. La vie de rêve, la vie de Tony, Tony, Tony. Pour finir à monter la jolie, jolie, jolie. Hey, la vie de rêve, la vie de...
Oh,
Damso sur France Inter, qui m'a demandé ?
France Inter, enquête de politique. Thomas Legrand.
Nous continuons avec Jérôme Truc et Fabien Truong à nous interroger sur les mots du débat autour de la banlieue et des cités. Et on va parler un petit peu maintenant topographie, urbanisme. Et je voudrais d'abord vous faire écouter ce petit échange entre un journaliste qui s'appelle Maurice Sardou et le ministre du Logement et de l'Aménagement du Territoire qui s'appelait Olivier Guichard. C'était en 1973. La date, retenez bien la date, 1973. Et on disait déjà ça à l'époque.
Les grands ensembles se sont imposés à la fin de la guerre dans une période où il fallait construire vite et massivement pour parer au plus pressé, c'est-à-dire à la crise du logement. Mais pourtant, quelques années après, cette urbanisation est devenue la cause d'un mécontentement profond. Les raisons sont multiples. Manque d'animation, de relais culturels, de petits commerces. Ces villes nouvelles qui ont surgi comme des champignons se sont transformées en cités dortoirs. Il manque surtout ce qui fait le charme des vraies villes, la diversité et une certaine qualité de l'habitat. Aujourd'hui, une nouvelle politique est en train de se dessiner. Les pouvoirs publics ont pris conscience que ces vastes cités n'ont pas de réelle justification économique.
Eh bien d'abord, il faut que les grands ensembles deviennent des petits ensembles dans une vie urbaine qui doit se caractériser par la diversité. Ce qui fait le charme d'une ville, c'est la diversité. Donc je souhaite qu'il y ait de petits ensembles et je demande qu'on ne dépasse pas 500 logements. Et puis ensuite, je souhaite qu'à l'intérieur de ces ensembles, on répartisse les logements aidés de manière à ce qu'il n'y ait pas de grands ensembles entièrement en HLM locatif et d'autres où il n'y en ait pas du tout. Il faut un mélange des deux, sinon on aboutira en effet à une ségrégation sociale.
Les nouvelles dispositions entreront en vigueur à partir de quand ?
Immédiatement, puisque à la suite de cette conférence de presse, cette directive va être adressée.
Voilà, immédiatement en 1973, on va vers la mixité et les petits ensembles, non pas les grands ensembles. Jérôme Truc, c'est incroyable, 1973, le but, le Graal, c'est la mixité, comme aujourd'hui, la diversité, comme aujourd'hui.
On est juste après la construction justement de la Grande Borne et Grigny 2, qui sont parmi les derniers grands ensembles à être construits en France. Il faut savoir que Grigny 2 en particulier, c'est une copropriété de droit privé qui est aujourd'hui la plus dégradée d'Europe. Alors justement, là, elle a été démantelée, c'est plus une grande copropriété, c'est plusieurs petites propriétés. On a les petits ensembles, bon. Mais de l'extérieur, ça donne quand même le quartier le plus dense aussi d'Île-de-France, parce que à l'époque, le promoteur immobilier avait le droit de construire tout ce qu'il voulait. Il n'a pas besoin de permis de construire, il y avait une dérogation qui lui avait été accordée pour... Et comme très vite, en fait, les gens, au début, on voulait faire Paris 2 bis, donc quelque chose de très haut standing. Et comme très rapidement, les gens qui s'installent là, qui ont vendu un rêve sur papier glacé d'American Way of Life avec une piscine, tous les services, etc., ont le sentiment d'une tromperie sur la marchandise parce que, en fait, l'État ne met pas l'argent en contrepartie pour construire ces équipements attendus, qui fait que tout de suite, les gens qui s'installent là ne peuvent pas scolariser leurs enfants à l'école, ont des difficultés pour aller à Paris parce que la gare de RER, elle est créée qu'en 1974. Bon. Et tout ça fait que le prix des immeubles s'effondre et que des appartements s'effondrent et que, donc, du coup, le promoteur s'estime cloué et se met à construire beaucoup plus que ce qui était prévu au départ. Et donc c'est comme ça qu'on aboutit à Grigny, à cette situation complètement emblématique, où on a à la fois ce quartier de la Grande Borne, très diffamé, alors qu'il y a ce quartier de HLM, et puis avec une architecture très particulière, des petits immeubles en spaghettis, etc., parce qu'il y a une servitude créée par l'aéroport d'Orly, non loin de là, qui fait qu'on ne pouvait pas construire des immeubles trop hauts. Et puis l'architecte Émile Ayot qui a voulu créer une cité refermée sur elle-même, où les voitures ne pourraient pas pénétrer, une cité oui. Où les enfants pourraient se perdre, bon voilà. Et puis complètement de l'autre côté de la Cis, avec une sorte de no man's land au milieu, comme on le raconte dans le livre, cette cité de Grigny 2, bon, voilà. Et donc, je vous disais aussi tout à l'heure que les débats publics, politiques, se fondent beaucoup sur des fantasmes et des paniques morales. Ils se fondent aussi beaucoup, il faut le dire, sur des commentaires hors sol. Et là, on rappelle dans le livre combien il est très important, c'est aussi une des bases de la sociologie, de savoir d'ancrer, en fait. La vie sociale, elle est ancrée, elle est dans le sol. C'est ce qu'on appelle la morphologie sociale, en sciences sociales. Et c'est très important, en fait, de resituer où vivent les gens, dans quel quartier, avec quels immeubles et quels moyens, parce que là aussi, en fait, bien souvent, en tant qu'individu, citoyen dans la société, à transposer, à généraliser et à juger ce que vivent les autres dans d'autres quartiers à partir de ce que nous, on vit. C'est-à-dire que très régulièrement, on entend dire, oui, mais enfin, quand même, dans ces quartiers, pourquoi les gens vont pas se plaindre à la police, pourquoi ? Et parce que on peut vivre, nous, dans un quartier très tranquille, le 16e arrondissement de Paris ou ailleurs, moi je vis à Rennes par exemple, et pouvoir aller au commissariat qui est pas très loin à pied, voilà. Mais à Grigny, le commissariat, il existe effectivement, mais une fois encore, il est quasiment fermé tout le temps. Pourquoi ? Parce qu'il y a effectivement eu un tournant, on l'évoquait tout à l'heure avec Nicolas Sarkozy, disparition de la police de proximité. À peine le commissariat est créé, inauguré, qu'en fait on décide que là on mettra pas de policiers, qui fait que du coup, quand on vit à Grigny, ben, on apprend à vivre sans la police, voilà. Et donc là aussi, on a besoin de sciences sociales pour arriver à comprendre. On pense souvent savoir et donc pouvoir juger ce que vivent les gens dans son quartier. La réalité, c'est que quand on n'y a pas vécu soi-même, quand on n'y vit pas, ben en fait, on ne sait pas. Et donc, on se fonde sur beaucoup de commentaires hors sol et de fantasmes qui circulent dans les médias.
Mais là, on a l'air, vous avez l'air de penser que tout est lié finalement à une absence de service public ou peut-être à une topographie mal faite. Mais Fabien Truong, le discours médiatique ou le discours politique ambiant est gagnant en ce moment, c'est plutôt de dire c'est parce que des vagues migratoires sont arrivées, parce que beaucoup de gens sont arrivés et qui n'avaient pas nos codes, parce qu'on est en pleine décivilisation, et même les mots barbarie, c'est peut-être à cause de cette nouvelle population qui n'est pas adaptée à nos mœurs et nos habitudes, que ces cités sont devenues inhabitables ou invivables, alors qu'elles ont été faites pour remplacer des bidonvilles dans les années 50 et 60. Voilà le débat et le propos qu'on entend.
Oui, alors d'ailleurs c'est intéressant dans la façon de présenter entre guillemets ce débat, c'est comme si les choses s'excluaient. Alors ça aussi c'est un peu une des bases des sciences sociales de dire les choses sont pas binaires. Donc pour revenir sur...
J'ai présenté ça comme ça parce que j'en avais un peu marre dans cette émission de passer du Pascal Praud assez régulièrement pour pouvoir relancer le débat. Mais donc,
Non, j'entends. Mais alors, donc premier point sur les services publics, c'est quand même une vraie réalité. La sous-dotation en services publics, elle est structurelle et elle est... Parce qu'il y a toujours ce discours de on dépense beaucoup plus dans les banlieues ou trop dans les banlieues, c'est
oui,
absolument faux. Hein.
Tout l'eau sur le sable.
Non, mais tous les rapports de la Cour des comptes, etc., le montrent, c'est pas vrai.
Le fameux rapport d'ailleurs du sénateur Cornu-Gentil, qui est LR, il était UMP à l'époque, conclut à ce que vous dites.
Voilà, et je vais juste reprendre un exemple, comme ça les auditeurs et les auditrices pourront se projeter. Grigny, plus de 30 000 habitants, une ville très très jeune, un seul pédiatre. D'accord ? Un seul pédiatre et qui va bientôt partir à la retraite. Beaucoup de jeunes allophones, c'est-à-dire qui ne parlent pas le français, aucun orthophoniste. Bon, vous voyez, c'est des exemples. Ça dit, en fait, des choses du rapport à ce qu'on peut attendre comme service. Donc ça, c'est le premier point. Après, sur la question des flux, ça dépend comment on regarde les choses. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, Grigny, au bout de 10 ans, plus de la moitié de la population est partie. Si elle est partie, pourquoi elle est partie ? C'est qu'elle a eu une mobilité sociale, résidentielle, et que ce sont des personnes qui ont trouvé leur place dans la société française. Donc, ils sont tout à fait, entre guillemets, intégrés. Et donc, de ce point de vue-là, les quartiers populaires jouent un rôle intégrateur absolument fort et complètement dynamique. C'est de dispatcher, si je peux m'exprimer ainsi, des personnes dans tout le territoire. Et c'est pour ça qu'un Français lambda, entre guillemets, eh bien, il connaît toujours un collègue ou une personne qui va lui rendre service, qui a grandi dans une cité, etc. Ça, c'est une expérience tout à fait normale, oui, au sens sociologique du terme. Et donc, les quartiers font ce travail-là. De l'autre côté, les gens qui partent sont remplacés par des personnes qui arrivent avec plus de difficultés économiques, sociales et qui viennent de plus loin. Alors, pourquoi ils viennent dans les quartiers populaires ? Aussi parce qu'on revient sur la question du séparatisme des quartiers bourgeois, parce qu'ils ne sont pas accueillis dans d'autres quartiers.
Et parce que la loi SRU, la loi qui oblige les communes, toutes les communes à tendre vers 25% de logements sociaux, n'est pas vraiment appliquée. En tout cas, pour les communes riches ou les quartiers riches, les arrondissements riches de Paris, ils préfèrent payer les pénalités plutôt que de respecter cette loi. C'était une parenthèse.
Oui, c'est une parenthèse importante. C'est-à-dire que les maires de ces communes riches ont fait un argument électoral, le fait de refuser la mixité sociale et de payer une amende, et donc d'être hors la loi, et donc d'être délinquant, puisque c'est devenu un argument électoral pour dire qu'on va préserver l'entre-soi, et donc du coup une certaine qualité de vie. Mais la contrepartie de tout ça, ça veut dire qu'on a effectivement, dans les quartiers populaires, une concentration des personnes précaires et qui arrivent en France parce qu'elles fuient, en fait, la violence du monde et la situation dans laquelle elles étaient auparavant. Et les quartiers populaires font ce travail, en fait, d'accueil d'accueil et qui est un travail éthique et en réalité qui est au cœur de la devise républicaine. Et de ce point de vue-là, on pourrait aussi estimer que ce sont des quartiers républicains, ce sont des quartiers qui pratiquent du point de vue de l'accueil, l'éthique de la fraternité.
Eh bien, pour terminer cette émission décidément très bien pensante et que j'assume comme telle, Jérôme Truc, je voudrais qu'on finisse par un mot, puisque c'est une émission sur les mots, un mot positif de la banlieue, solidarité. Il y a des solidarités qui se créent quand même, et des choses qui peuvent nourrir un certain espoir.
Bien sûr, en 2015, il y a tous ces discours consistant à dire, voilà, c'est pas étonnant que Mehdi Coulibaly soit venu grimer, etc. C'est le symptôme d'une dégradation de ces quartiers, de ces villes, et 10 ans après, il n'y a pas eu d'autres Mehdi Coulibaly. Il y a eu les émeutes de 2005, il y a eu les émeutes post-Naël, mais il n'y a pas plus d'émeutes dans ces quartiers où pourtant les difficultés sont très très dures, où les conflits avec la police sont récurrents, où la mort peut surgir au coin de la rue à cause des problèmes de trafic de drogue qui sont très prégnants aussi à la Grande Borne. Et ça tient. Parce qu'en fait, les gens sont dans une très forte solidarité. Effectivement, il y a une forte entraide, il y a une forte solidarité. Et la crise ouverte par les événements de 2015, parce que c'est une véritable crise qui est éprouvée sur le plan local, c'est un émoi national, mais pour eux, de savoir que c'est en plus un enfant de Grigny qui a fait ça, elle exacerbe cette solidarité, elle la rend particulièrement visible. Et puis, ce qui va avec, ce sentiment de paix, ce besoin de paix, il y a quelque chose qui nous saute aux yeux quand on arrive là et quand on voit les murs de parole qu'on nous demande d'analyser, c'est que ces gens qui arrivent à Grigny, et ces vagues régulières de gens qui arrivent à Grigny parce qu'ils ont fui la guerre, parce qu'ils ont fui les pays autoritaires, ils viennent en France pour vivre en paix. Ils y sont profondément attachés. Pour eux, la vie paisible dans un pays comme le nôtre, et dans un contexte comme celui qu'on vit en ce moment, avec le conflit entre Israël et alors Iran, Gaza, et puis la guerre en Ukraine. Il y a des gens pour qui ça a du sens vraiment de pouvoir vivre dans un pays en paix. Et donc dans ce moment de 2015, où pourtant on a eu tout un discours consistant à dire que donc ces quartiers-là n'étaient pas vraiment en deuil, pas vraiment concernés, etc. Les attentats, ça les a profondément touchés, parce que ça leur a rappelé des choses que certains avaient fui, et ça a mis en péril cette paix qu'ils étaient venus chercher dans notre pays. Donc solidarité, je dirais, fait écho aussi à ce mot sur lequel on pourrait finir, paix.
Eh bien, Grands Ensembles, c'est le livre que je vous conseille de lire, chers auditeurs, édition La Découverte. Vous ne regarderez plus jamais CNews comme avant quand vous aurez lu ce livre. Enquête de politique, c'est fini. Pas simplement pour cette saison, l'émission s'arrête. Bon, disons qu'on est peut-être allé au bout des ismes durant ces 3 années, depuis le premier épisode en septembre 2022. Mais grâce au podcast et à l'appli Radio France, Enquête de politique, eh bien, ça fait une belle collection à écouter. Je suis sûr que vous n'avez pas tout entendu. Ou à réécouter, par exemple, durant vos trajets de cet été. Il y a des unitaires, il y a des séries, de l'anarchisme au fascisme, du pacifisme au populisme, du wokisme au masculinisme, du bonapartisme au macronisme, en passant par des ismes moins connus, comme le ludisme, l'agrarisme, le systémisme, le climato-dénialisme, et par des concepts plus institutionnels battus en brèche dans le débat politique, comme l'état de droit ou la laïcité. On a bien voyagé dans le monde des idées politiques. Au moment où le débat politique sur les réseaux sociaux et les chaînes Tout Info est en permanence polarisé, au moment où la défiance envers la politique menace la démocratie, et alors que les citoyens sont de plus en plus désaffiliés, il n'était pas mauvais de se souvenir que les idées et les mots ont une histoire, que la politique est aussi affaire de lignées, il y a rarement de générations spontanées, affaire d'idéologie et de pratiques, de fantasmes et de réalités. Nous avons essayé durant ces 3 années de donner quelques clés de compréhension pour mieux appréhender les débats qui agitent nos sociétés et pour ne pas être trop dupes non plus. Merci à tous les historiens et les historiennes, les philosophes, les politistes qui sont passés à ce micro. Et merci à Christophe Imbert, orfèvre de la réalisation, à Franck Olivard, fouineur acharné d'archives cachées, à Thierry Dupin, à la programmation musicale. Merci à Emma Bouvier, attachée de production qui nous a aidés sur plusieurs émissions. Et enfin, un petit salut à Aurélie Marciro pour sa chronique livre de la saison 2022-2023. Moi, je vous retrouverai sur l'antenne en septembre. Je ne sais pas encore où et comment. On y travaille. Vous avez remarqué qu'il y a du mouvement sur la chaîne. C'est la loi du genre à cette époque de l'année. Ce sera toujours en lien avec la politique et on va essayer de se réinventer. Je vous souhaite donc un bon été, notamment à l'écoute de France Inter. Nous avons de beaux programmes estivaux. Et puis n'oubliez pas, bien sûr, si vous ne vous intéressez pas à la politique, c'est la politique qui s'intéressera à vous.